Bien, Monsieur Bonvin, le directeur de Greenwatt du groupe E, et peut-être qu'il nous rejoindra. D'ailleurs, tout le monde nous a rejoint finalement. Et vous avez donc maintenant Nicolas Évrard, est maire d'une des communes de la vallée de Chamonix, vice-président de la communauté de communes. Et il vit une expérience extrêmement pratique parce qu'on est dans une configuration territoriale difficile entre les montagnes. On a des forêts qui sont généreuses, de proximité, et on a des chauffages au bois nombreux, mais anciens. Et vous avez pris l'initiative de conduire une opération qui confirme votre volonté d'avoir des circuits courts, mais en même temps de changer ces installations et de soutenir précisément le chauffage au bois, l'énergie bois, mais en tenant compte de ce qui vient d'être dit par ces messieurs. Alors, Monsieur Nicolas Évrard, on vous écoute témoigner avec intérêt.
Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette invitation et pour partager avec vous justement cette expérience du fonds Herbois dans la vallée de l'Arve, qui est effectivement un élément finalement qui n'a pas laissé le marché, puisque c'est un peu le thème de cette table ronde, les lois du marché, sont-elles suffisantes? Eh bien, justement, nous avons estimé que vu les enjeux de qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, il était urgent d'agir, d'accompagner et de favoriser finalement un investissement des particuliers. C'est vrai que la forêt est abondante, hein, comme dans tous les territoires de montagne. La vallée de l'Arve, vous la connaissez bien. Elle est riche de forêts et toutes les chartes forestières du territoire avaient prouvé qu'il y avait un énorme potentiel de bois énergie. Pour autant, de l'autre côté, l'Union européenne nous avait rappelé qu'effectivement, il y avait un petit problème de qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, petit entre guillemets, vous m'avez compris, et qu'effectivement, il était urgent d'agir. Et dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère défini en 2012, suite à un certain nombre d'études, il a été prouvé très très clairement que le chauffage au bois individuel des particuliers était la cause principale, puisque le résidentiel, c'est à peu près 61% des sources de production de PM10 dans la vallée de l'Arve. Et 90% de ces 61% sont en fait dus au chauffage domestique. Donc effectivement, des résidences, beaucoup, une habitation relativement dense, et pour autant des foyers plutôt anciens, un certain nombre de foyers ouverts encore, et des foyers qui sont plus du tout efficaces. Donc il fallait mettre en place à partir de 2012 un certain nombre de mesures sur le secteur résidentiel pour permettre la mise en conformité des installations du chauffage au bois, tout en permettant d'être incitatif, hein, parce que derrière, si on ajoute de la contrainte réglementaire, notamment dans le cadre de vente ou de cession de ces biens immobiliers, eh bien il fallait avoir une contrepartie. La carotte et le bâton, c'est connu, c'est une bonne technique. Et ce qui a été imposé également, c'est d'avoir des nouvelles installations qui soient 5 étoiles. On est même passé maintenant, plus récemment, à 7 étoiles sur le label Flamme Verte, c'est-à-dire en gros qui est une valeur d'émission de poussière maximum de 125 mg par nanomètre cube. Et l'idée derrière tout cela, c'est de dire... Voilà, on vous accompagne, vous avez la possibilité, vous remplissez un dossier, le dossier est assez complet, on peut vous accompagner dans la rédaction du dossier, mais on vous attribue 2000 euros, minimum 2000 euros, pour changer votre poêle. Si c'est un foyer ouvert ou un poêle ancien, eh bien vous aurez comme ça la possibilité d'investir un peu plus fortement. On vous incite également à aller chercher des artisans qui sont labellisés, qui connaissent ces questions-là, qui sont référents finalement sur la vallée, sur les nouvelles installations et qui peuvent vous permettre d'aborder avec un peu plus de sérénité finalement là aussi cette logique de marché, parce que dès qu'il y a une subvention, il y a un peu un effet d'aubaine, et l'enjeu effectivement c'est d'accompagner les gens pour qu'ils aient un choix le plus objectif et le plus rationnel possible pour choisir le bon poêle qui permettra de faire ces installations. À cela s'ajoute un certain nombre d'accompagnements qui viennent, je dirais, ajouter à ça, qui sont des dispositions nationales sur la qualité énergétique des bâtiments ou des crédits à taux zéro pour justement favoriser la rénovation énergétique, des choses comme ça. Et donc tout ça est cumulable et ça permet effectivement, de favoriser l'investissement de chacun. Peut-être quelques mots de résultats avant d'ouvrir peut-être le débat avec les autres participants. Ce processus a bien marché et le bilan en 2017 qu'on a fait permettait de voir que c'est ce qui a permis de baisser de 5% sur un total de 18% sur ces 18 points. Eh bien, 6 points sont liés justement à la réduction des émissions du chauffage au bois. Donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Je retrouve les chiffres récents. Il y a tout de même 3200 foyers qui ont remplacé justement leurs vieux inserts, leurs vieux foyers ouverts sur 5 ans, soit un tiers des foyers identifiés. Donc on est sur un résultat de 30%, un peu plus de 30%, qui était bien plus que l'objectif qu'on s'était fixé, qui était d'environ 20%. Ça fait tout de même 7 millions d'euros de subventions, donc comme je vous le disais, 2 000 euros par dossier, avec une prise en charge qui est à 50% par l'ADEME et puis à 50% par les collectivités territoriales. On a ajouté à ça, mais c'est plus anecdotique par rapport au sujet d'aujourd'hui, un fonds air-gaz qui doit favoriser aussi, sur certaines communes, la capacité à se raccorder au gaz. Ce qui n'est en soi pas tellement durable, je le reconnais. Donc voilà, on est effectivement sur un bilan très positif et on souhaite continuer cette mesure dans le cadre du PPA 2, du plan de protection de l'atmosphère numéro 2, en continuant ce soutien à hauteur de 2000 euros et pourquoi pas effectivement l'accompagner d'autres mesures pour avoir une vraie logique qui touche à l'habitat de façon plus générale parce qu'on sait que c'est une forte source de pollution. Derrière se pose pour nous la question, et ça peut concerner certains citoyens genevois, la question de l'habitat des résidences secondaires notamment, qui est aussi une problématique, mais qu'on n'a pas encore réussi à aborder actuellement. Voilà, c'est très compliqué de distinguer l'un de l'autre, mais effectivement, ces aides de 2000 euros sont pour le résident principal, pour le résident permanent, ce qui est déjà un premier effort, mais peut-être qu'il faudra aborder aussi cet enjeu résidentiel et touristique, finalement, des résidences touristiques de notre territoire, qui sont, comme on le sait, notamment en période de Noël, un des facteurs de pollution également, à côté, évidemment, de la circulation et de l'industrie.
Bien, merci de ce témoignage qui montre la réalité des choses. Vous ne craignez pas, d'ailleurs, comme élu dans la vallée, de dire que la principale pollution, c'est pas celle dont on parle le plus, mais c'est celle du chauffage. Et vous voyez à quoi je fais allusion. Et maintenant, quelles sont les autres sources de chauffage que vous avez ?
On a, comme je l'évoquais, le gaz qui tend à se développer, mais qui est effectivement plutôt sur des périmètres urbains. Dès qu'on est un petit peu sur des villages ruraux, c'est beaucoup plus compliqué, vu la dispersion. Le réseau de gaz n'est pas très pertinent. Et puis, effectivement, dans l'accompagnement, dans les autres actions, qu'elles soient de l'État ou dans le cadre du PPA, on soutient effectivement l'installation de plus en plus forte de solaire thermique ou photovoltaïque. Et puis, pourquoi pas, tout un programme qui est plutôt là porté par les collectivités territoriales avec des aides de la région, du raccordement à de la pico, de la micro-hydroélectrique, qui semble très complémentaire. Un dernier élément, effectivement, sur lequel nous travaillons, avec dans ma vallée, une commune un petit peu pilote, qui est la commune de Valorcine, frontière du Valais, qui a déjà depuis 5-6 ans mis en place une chaufferie bois collective. Et effectivement, il y a sans doute là un énorme effort à faire. On sait que les réseaux de chaleur ont vraiment progressé ces 10 dernières années et qu'il y a sans doute là sur du collectif, voire du public et du collectif, voire pourquoi pas y raccorder également de l'individuel, un vrai potentiel sur la chaufferie collective la chaufferie bois collective qui permettrait justement d'être à la pointe de la technologie et quelque part de résoudre en partie notre problème à la fois d'exploitation forestière et de qualité de l'air.
Et Nicolas, vous avez dans la vallée, et au-delà de la vallée après Valorcine, un programme énergétique transfrontalier.
Oui, absolument. On a travaillé avec la commune de Martigny, avec le CREM, pour être tout à fait précis, sur un cadastre des énergies renouvelables. Le projet s'appelait Planétaire, un projet transfrontalier France-Suisse. Et effectivement, nous savons à la parcelle, grâce à l'expérience du CREM, on est vraiment là sur cette logique de l'espace diamant, du territoire de l'espace Mont-Blanc et de la coopération transfrontalière, on a pu récupérer ce savoir-faire valaisan, justement, qui nous permet de dire à la parcelle l'énergie renouvelable la plus propice à développer sur ce secteur pour tel ou tel habitat. Et donc, effectivement, c'est même quelque chose, on est les premiers en France, grâce aux valaisans, les premiers en France à avoir développé ça. Et là, c'est, je pense, une technique de pointe qui, justement, par rapport aux enjeux d'urbanisation, permettra de répondre au mieux aux choix énergétiques, justement, et avoir une optimisation énergétique et une durabilité la plus pertinente pour notre habitat.
Je vous entraîne sur ce terrain parce que, je l'ai dit dès le départ, ces rencontres sont régionales, intercantonales et transfrontalières. Et ce qui se passe entre le Valais et la région de la vallée de l'Arve, de la Haute-Savoie, c'est remarquable. Et le CREM était vraiment une plateforme extrêmement intéressante dans le domaine énergétique. Et monsieur le directeur, vous les connaissez bien, ça va de soi. Merci. On va passer à un autre témoignage, celui de monsieur de Beauval. Vous êtes directeur des projets industriels de Sogetri. Alors, dans un premier temps, si vous voulez bien rappeler ce qu'est Sogetri, vous le ferez encore mieux que je le ferai. Et puis ensuite, précisément apporter ce témoignage qui s'inscrit dans ce qu'on vient d'entendre par rapport aux avantages et aux inconvénients de ce chauffage-là.
Tout à fait. Bonjour mesdames et messieurs. Merci monsieur le Président d'avoir invité à cette table un représentant de l'industrie du recyclage. Donc Sogetri, comme je viens de le dire, c'est une entreprise qui, entre autres, va trier et recycler des déchets de bois. Aujourd'hui, on est présent dans toute la Suisse romande. On recycle, on trie et recycle, en tout cas, on trie et traite 50 000 tonnes de bois déchets, ce qui correspond à peu près à 30% du marché de bois déchets de la région romande. Alors, qu'est-ce que c'est que traiter du bois déchets? Tout d'abord, on reçoit sur nos plateformes différents types de bois issus de différents types d'activités. Il peut y avoir du bois de démolition, du bois de charpente, du bois de coffrage, du bois issu de la distribution avec des palettes notamment. Notre métier aujourd'hui, c'est d'identifier à la source les différents types de bois déchets qu'on va pouvoir avoir et de rentrer dans les cahiers des charges d'industriels ou d'entreprises spécialisées dans l'énergie qui vont ensuite prendre en charge ce bois. Donc on investit tous les jours dans des outils qui vont nous permettre de rentrer dans les caractéristiques que demandent nos clients industriels. Aujourd'hui, sur ces 50 000 tonnes, on a environ la moitié de ce volume qui part dans l'énergie, dans différentes voies de valorisation énergétique, et une autre moitié qui part dans l'industrie du recyclage, principalement chez des panotiers, dont il y a certains représentants ici autour de cette table, notamment suisses.
Mais vous exportez encore une bonne partie de ce que vous récoltez?
Oui, tout à fait.
Et vous l'exportez toujours vers l'Italie?
On exporte vers l'Allemagne, on exporte vers l'Italie. On favorise les filières suisses, mais elles ne suffisent pas au volume qu'on peut avoir, parce que la Suisse est un pays qui importe beaucoup. Et alors, il y a la question, effectivement, de l'intérêt du recyclage, si c'est pour transporter sur des centaines de kilomètres du déchet. À ça, moi, je réponds assez facilement qu'il faut commencer par arrêter de boire de l'eau San Pellegrino en Suisse, parce que ça veut dire qu'ensuite, on a des camions qui repartent à vide. Et nous, justement, on profite de ces transports à vide pour recharger du bois. Et même dans une configuration empirique, en fait, on investit là, en ce moment, on est en train de créer un beau centre de tri qui, je pense, va être un fleuron de la Suisse à Genève. On a fait des études sérieuses qui nous disent que grâce à ce centre de tri, par rapport à la situation genevoise actuelle, on va économiser de l'ordre de 13 000 tonnes de CO2 par an. Et alors j'ai posé cette question-là au bureau d'ingénieurs qui a réalisé cette étude, et je dis, et si, ce qui n'arrive jamais, on devait transporter sur 1000 km chacune des matières qui sort, sachant que la plupart restent en local, et bien finalement l'impact était beaucoup moins important que ce que je l'imaginais, puisqu'on continue à faire une économie de l'ordre de 10 000 tonnes de CO2, ce qui veut dire que l'impact recyclage est beaucoup plus fort que l'impact transport.
Je ne critique pas toutes les exportations, mais je veux dire par là que vous pourriez transformer sur place. On importe, on se croise en quelque sorte. Où sont les freins pour que vous puissiez fournir plus largement le marché?
Les freins, c'est un investissement industriel massif. On a une entreprise, pour ne pas la citer, comme Suisse Chrono, qui est présente en Suisse, qui a investi massivement. Aujourd'hui, avec les volumes qu'on a, les capacités qui s'ouvrent actuellement en Italie, on parle de 400 000 tonnes par an. Nous, on est sans doute le plus gros recycleur de bois en Suisse. Avec nos 50 000 tonnes par an, dans l'échiquier économique, on est nulle part. On aimerait bien avoir cette capacité de pouvoir intégrer la filière de haut en bas. Mais maintenant, les filières industrielles, c'est vrai, représentent des volumes qui sont beaucoup plus importantes que celles qu'on peut nous maîtriser.
Ce que nous entendons est positif dans la mesure où avant, on ne transformait pas ce que vous faites maintenant.
Exactement.
Et ça partait, c'est pas si ancien que ça, J'ai été le témoin à plusieurs titres, mais ça partait dans les pays qui nous entouraient dans des quantités considérables. Mais là, ma question, c'était, pouvez-vous aller un peu plus loin encore? Donc, c'est possible si vous avez les installations adaptées à ces quantités.
Oui, oui, tout à fait.
Ça demandera des investissements.
Aujourd'hui, c'est le marché qui définit principalement l'intérêt qu'on a à aller à un endroit par rapport à un autre. Il y a des projets qui se montent en Suisse, notamment de chaufferies sur des boîtes déchets mélangées avec des polluants. Je pense à un projet qui est à Arberg. On les suit avec intérêt. Mais c'est des projets de long terme.
Est-ce que ces remarques, messieurs, vous conduisent à une question? Bon. Vous pouvez prendre un micro. S'il vous plaît, le son pour le monsieur.
Oui, oui, je pense que c'est important qu'on pourrait prendre ces ressources nouvelles en Suisse. Nous, on a aussi vu ce projet de Arberg qui est largement financé après aussi par la CREF. On a dû même changer un peu l'ordonnance pour qu'il entre dedans. Et je pense que c'est vraiment dans notre intérêt que c'est possible de garder ces ressources en Suisse pour les raisons qu'on a déjà nommées.
Je suis tout à fait d'accord. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, on ne peut pas tout revendre en Suisse et qu'on est obligé d'exporter, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas les filières. Il y a un marché. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai marché qui évolue avec le temps, qui évolue pas tous les jours comme la bourse, mais qui évolue au moins tous les mois. Et ce marché-là, aujourd'hui, définit un peu pour nous, qui sommes acteurs économiques, c'est-à-dire que si on ne devait pas pratiquer ce prix de marché et avoir un prix fixe, malheureusement, on aurait des concurrents qui ne se gêneraient pas pour reprendre nos volumes. Donc on est obligé d'écouter ces marchés. Et ces marchés-là aussi... Enfin, c'est pour ça qu'on voit d'un très bon œil, nous, toute nouvelle initiative suisse. On est à l'origine de certaines initiatives. On a des projets dans la filière aval aussi. Mais tout ça, on le voit d'un très bon œil parce que, bien sûr, ça ne fait que créer de la demande là où nous, on apporte de l'offre.
Merci. Je demande à M. Wynn, à M. Veuille et à M. Andrès de bien vouloir nous rejoindre. Il y a suffisamment de sièges pour cela. Bienvenue, messieurs. Vous avez des responsabilités territoriales au niveau de l'État et des cantons. En ce qui concerne M. Andrès, vous êtes le directeur général de l'Office cantonal de l'énergie. M. Veuille, vous êtes celui du canton de Vaud. Et puis, vous avez, M. Wynn, vous êtes directeur territorial de l'Office national des forêts. Vous apporterez votre éclairage et de précision pour les Helvètes, pour qu'ils comprennent bien ce qu'est l'Office en question. Je me tourne d'abord vers M. Veuille, qui est là. M. Veuille, si vous pouvez, précisément, je reviens sur le thème des lois du marché, influencent-elles les choix énergétiques ? Dans quelle mesure, quand on est dans un canton, soit celui du canton de Vaud, un autre canton, qui exprime régulièrement des volontés environnementales, une sensibilité écologique, dans quelle mesure peuvent-ils la réaliser, la mettre en pratique, cette sensibilité, par rapport au marché qui, évidemment, a l'influence qu'on sait?
Alors, je dirais qu'on a le choix de la technologie. Donc, si une commune décide de chauffer une école au bois, elle peut le décider. On va faire un appel marché public sur une chaudière à bois, un système de cogénération au bois. Et puis derrière, et ça, elle peut le choisir. Donc elle peut choisir sa filière d'approvisionnement. On ne peut pas dire que non, le bois est en concurrence avec le mazout. Après, c'est des calculs comptables. Est-ce que si la filière bois s'avère plus chère, ce qui n'est pas le cas, elle est normalement moins chère, effectivement, la commune va se poser la question. Mais on n'est pas tenu à des marchés. On est tenu, une fois qu'on a choisi la technologie, alors à ce moment-là, l'approvisionnement pour la chaudière, que ce soit du mazout ou on espère du bois, à ce moment-là, là, on part sur les marchés publics. On ne peut pas garantir, une fois qu'on a choisi une chaudière à bois, qu'on aura du bois suisse qui va l'alimenter. Parce que là, on est tenu aux lois des marchés publics. Et malheureusement, la pondération des critères fait que le critère d'impact environnemental est aujourd'hui, à mon sens, et je crois que c'est un avis qui est partagé par plusieurs, il est trop faible. Et donc, on ne peut pas augmenter la pondération de la question environnementale sur le choix, finalement, du concurrent final. Le prix est encore un critère qui est trop prédominant.
Monsieur Andrès, sur le même point.
Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas tout à fait du même avis, dans le sens Mais c'est
absolument. On n'a pas fusionné.
Non, pas encore.
Pas encore. Oui. Pas prêt d'arriver. C'est un vaudois qui vous le dit. Vous voyez sur quel ton en plus.
Aujourd'hui, on voit que ce qui dicte finalement une partie de la stratégie énergétique, c'est les fluctuations des prix des énergies fossiles, puisque toutes ces filières, finalement, qu'elles soient bois, gaz ou mazout, sont en concurrence sur le marché de la chaleur, et que le consommateur, avant toute chose, regarde sa facture en fin de mois. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans la planification énergétique territoriale, que nous menons en collaboration avec les services industriels du canton de Genève, qui est le bras industriel du canton pour le déploiement en fait des grandes infrastructures, on voit que ce prix du fossile influence énormément le mix énergétique qu'on va pouvoir mettre dans nos réseaux à terme. Et donc, à ce titre-là, le moyen qu'on a de, je dirais pas de contourner, mais d'éviter la problématique du marché public, c'est dans nos concepts énergétiques territoriaux. C'est avant toute chose et avant de faire un appel d'offres sur une technologie, c'est de comparer en fait les filières entre elles, tout en ayant des facteurs de pondération qui sont le prix pour une partie, mais également les impacts environnementaux, sociétaux, puisqu'on a vu qu'il y avait un impact très fort sur la santé. Donc aujourd'hui, dans notre nouveau concept énergétique territorial, qui va être déployé, on va mettre environ 6 critères et un seul de ces critères sera le prix. Donc vraiment pour montrer qu'on est en train de changer complètement de paradigme et qu'on, dans la même manière que nous avons rédigé une ligne directrice sur l'utilisation du bois, on a vraiment la volonté non plus de s'arrêter au prix, mais vraiment sur le développement durable au sens large. Et je terminerai en disant que par rapport à l'acceptation du public du prix, je pense qu'on peut faire, si on met toutes les filières ensemble, et on parlait tout à l'heure du bois déchet, où on a un projet sur Genève qui est la valorisation en local de ce bois déchet, donc avec les services industriels représentés par M. Nicolas Sorel ici, pour justement avoir un circuit court et une valorisation locale en cogénération de ces bois déchets. Donc le canton aujourd'hui va dans une politique de circuit court dans un bassin régional, mais avec une forte volonté d'encourager le bois, comme ça a été présenté tout à l'heure par M. Royer.
Monsieur Ouin, vous êtes un homme de la forêt, et puisque vous dirigez un office national des forêts, enfin, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez tout de même intervenir dans le prolongement de ce que vous avez entendu, même si c'est le bois votre préoccupation première. D'ailleurs, de toute façon, c'est la nôtre aussi aujourd'hui.
Oui, merci, Monsieur le Président, pour l'invitation. Comme vous l'aviez suggéré, rappelez que l'Office national des forêts, en fait, l'établissement public d'État qui est en charge de la gestion des forêts publiques, donc les forêts qui sont propriété de l'État et des collectivités territoriales sur le territoire national. Donc l'ONF gère à peu près 4,5 millions d'hectares de forêts sur la métropole, plus 10 millions d'hectares en Outre-mer, avec d'autres objectifs d'ailleurs que la production de bois. Et donc pour prolonger le débat, c'est vrai que le bois énergie est une vraie problématique et un vrai enjeu pour le gestionnaire forestier. Je ne représente pas tout l'amont forestier, puisqu'il y a mon collègue aussi de la coopérative qui pourra s'exprimer, bien sûr. Mais l'enjeu pour nous est de pouvoir trouver des débouchés pour ces produits, qui sont un petit peu les sous-produits du bois d'œuvre et qui permettent d'équilibrer l'ensemble de l'équation économique de la gestion forestière, sachant que pour que ce bois sorte, il faut qu'il ait une juste rémunération et qu'aujourd'hui, comme le citait monsieur, c'est vrai qu'il y a la concurrence d'autres énergies fossiles bien moins chères, en tout cas à l'heure actuelle, qui sont un vrai frein. Et puis, il ne faut pas oublier, en tout cas dans le modèle économique de la forêt en France, le bois énergie est un sous-produit, c'est-à-dire que ce bois énergie ne sort qu'une fois que le bois d'œuvre a pu être mobilisé. C'est-à-dire que c'est le bois d'œuvre qui permet de payer la gestion forestière, en caricaturant, donc qui permet de créer les routes, d'équilibrer l'ensemble du budget de la gestion forestière, et le bois énergie, lui, est un sous-produit, mais qui permet aussi de contribuer, mais à une bien moindre mesure, à l'équilibre financier de l'ensemble.
Moi, je représente la partie, une partie importante donc, de la forêt privée, puisque donc, mon collègue Hervé Ouin vient de parler de la forêt publique. En France, c'est scindé en deux. Donc, je suis le directeur d'une coopérative qui rayonne sur deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est transfrontalier avec la Suisse. Là, on est vraiment très proche. On a d'ailleurs beaucoup, pas mal de courants d'affaires. On livre de la plaquette forestière également en Suisse, puisqu'on fait sur 700 000 m3 de bois total 50 000 tonnes de plaquettes. Donc pour compléter, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, hein, il est évident qu'aujourd'hui, le marché ne permet pas de donner le juste prix dans tous les cas par rapport à la durabilité des énergies. Tout dépend de quoi on parle, hein, si on parle d'énergie ou d'énergie durable. Et ça ne donne pas le vrai prix à l'énergie durable, ça c'est évident, puisque... les acheteurs qui sont spécialistes de l'énergie mettent sur un même pied d'égalité du gaz, du fioul, du bois. Voilà. Et ça, forcément, c'est un handicap majeur aujourd'hui au développement du bois énergie. Pour preuve, puisqu'il y a quelques années, on avait misé, pour le développement du bois énergie, on avait misé justement sur une augmentation sensible des hydrocarbures. Tout le contraire s'est passé parce que l'homme s'adapte énormément à son environnement et donc il a trouvé d'autres sources d'énergie de non conventionnelles qui posent d'ailleurs beaucoup d'autres problèmes. On sait aussi qu'en matière de gaz, hormis les gaz non conventionnels, il y a aussi d'énormes réserves de gaz offshore, notamment en Méditerranée, hein, au large d'Israël, du Liban, qui poseront des problèmes écologiques majeurs, certainement, mais qui pour l'instant font que par exemple, bah, le gaz, effectivement, c'est le principal concurrent pour nous lorsqu'il y a un projet qui se fait. Et même lorsque les chaudières bois sont établies, on le voit dans des hivers un peu moins rigoureux, bah, c'est la chaudière à gaz qui tourne, parce qu'on a jamais, on a rarement dans les gros sites qu'une chaudière à bois. On a aussi une chaudière à gaz à côté, et c'est la chaudière à gaz qui tourne, la chaudière à bois ne tourne pas, simplement parce que techniquement, une chaudière à bois, ça doit tourner à 80% minimum si on veut un bon rendement. Une chaudière à gaz, c'est très souple. Il faut 10 minutes pour mettre en route une chaudière à gaz, c'est un fluide. Bon, en plus, c'est la molécule hydrocarbure la plus simple, donc qui a le moins d'impact, CH4, qui a le moins d'impact sur l'environnement. Je dirais qu'après, alors les communes qui prennent la décision de monter des chaudières à bois, très bien, je pense que ça c'est un peu comme tout à l'heure, on parlait dans la construction avec le label Bois des Alpes, bah, les communes qui prennent la décision de faire du bois, il faut aussi qu'elles se posent la question d'où va venir le bois et à quel prix on va l'acheter. Et dans la majorité des cas, ces communes délèguent, donc font une délégation de services publics, et après, elles s'en occupent très peu. Donc déléguer sans contrôler, c'est abdiquer. Hein, le vieil adage dit ça. Donc conclusion, derrière, on a affaire à des sociétés qui sont, en France, dans tous les cas, peu nombreuses. Il y en a deux majeures, il y en a quelques-unes autour, et qui ont l'habitude de travailler dans d'autres métiers comme l'eau, comme les déchets, et qui, en dehors de rentabilité à moins de deux chiffres, ne savent pas travailler. Donc conclusion, déjà, ça nous crée un intermédiaire qui, de toute façon, va peser énormément sur le prix du bois, puisque en face, souvent, vous avez des réseaux de chaleur qui approvisionnent donc des logements sociaux, donc le prix, il est quand même contenu. La marge que l'opérateur qui a hérité de la DSP veut faire, et donc la variable d'ajustement, bah forcément, comme toujours, c'est la matière première. Et donc au prix actuel où on voudrait acheter donc le bois énergie, ça ne permet pas. Enfin, nous, on est à 60-80% éco-certifiés PEFC, donc on est à peu près sûr que nos plaquettes forestières sont... après, on peut discuter sur PEFC, mais au moins, on a ce label-là et on est à peu près sûr que nos plaquettes forestières sont éco-certifiées. Mais vous avez un certain nombre d'intervenants qui, de toute façon, vont être tentés, pour respecter ces prix, de ne pas respecter les règles de développement durable dans la forêt. Donc, conclusion, on a la même dérive là qu'on a vécu, en tous les cas en France, avec la grande distribution et l'alimentation. Si demain, on veut se retrouver avec des lasagnes qui valent moins cher que le carton qui les entoure, on est parti vraiment. Et là, il va peut-être falloir qu'il y ait une conscience qui se fasse jour. Parce que si on ne le fait pas, et on le sait pertinemment, on va être tous receleurs d'un développement qui est non durable. Donc là, il y a un vrai enjeu pour que cette énergie durable soit à son juste prix et qu'on prenne en compte justement les avantages que le bois peut amener. On a vu qu'il avait certains inconvénients, notamment des rejets qu'il faut juguler, on sait le faire. Mais d'autre part, il faut aussi qu'on prenne en compte le fait que les hydrocarbures, qui sont très simples aujourd'hui, ont quand même de forts inconvénients, puisque c'est cela même qu'on veut faire disparaître. Et je pense que là, aujourd'hui, on ne prend pas vraiment les mesures qu'il faut. Il y a encore du travail à faire.
Visiblement, Monsieur Vu va intervenir. Si, je vous ai vu vous agiter. Visiblement, vous preniez quelques reculs.
Je me trémoussais parce que je crois qu'on a un biais de réflexion sur ce qu'on entend par compétitivité. Si on prend comme unique métrique le prix du kilowattheure et qu'on compare gaz, pétrole ou disons mazout et bois, effectivement, et qu'on a du bois suisse, effectivement, le bois suisse sera un petit peu plus cher au kilowattheure. On sera à 14 centimes contre 12 centimes de francs suisses pour les autres. Mais c'est une mauvaise métrique pour deux raisons. La première, c'est qu'on compare uniquement avec les prix d'aujourd'hui. Or, une filière du bois suisse va avoir des prix stables garantis sur 30 ou 40 ans. Qui nous dit ce que vaudra le gaz et le mazout demain? Aucune idée. Donc, quand on investit dans une chaudière aujourd'hui, on doit faire des projections et un cash flow cumulé sur la durée de vie économique de la chaudière, 20 ans. Et si on intègre le risque de fluctuation à la hausse des prix des fossiles, eh bien, tout d'un coup, le bois devient très intéressant. Purement au niveau prix. Et c'est sans compter, en outre, que le bois filière locale va apporter un certain nombre d'avantages économiques, des bénéfices collatéraux, que sont les jobs locaux, le maintien de la forêt et de tous ces bénéfices, la balance des paiements, parce que quand on achète du pétrole ou du gaz, c'est des devises qui sortent du pays. Si on achète du bois suisse, les devises restent locales, que ce soit suisse ou français. Et tous ces avantages-là, une fois qu'on les intègre dans le calcul économique du prix, mais économique en termes sociétal, à ce moment-là, vous verrez que le bois est clairement la moins chère des solutions après la pompe à chaleur.
Merci, Monsieur Andrès. Vous avez un micro devant vous, autrement.
Oui, alors, effectivement, je pense que dans le monde des initiés, on est tous d'accord. La problématique, elle est de faire passer ce message-là à l'ensemble de la population. Et je prendrai un exemple tout bête. À Genève, on a le premier réseau qui a été mis en appel d'offres public, qui est le réseau Cadium, que vous connaissez bien, j'imagine, avec une valorisation des rejets de chaleur de l'usine des Chenevier, avec un prix de cession de la chaleur de base, qui avait été un prix, je dirais, d'encouragement au lancement du réseau, qui a été par la suite adapté pour être équivalent au benchmark des usines d'incinération romandes et suisses. L'augmentation a été d'environ 2 à 3 centimes du kilowattheure. Et il y a eu une levée de boucliers chez les consommateurs qui payent aujourd'hui moins cher que le prix que vous annoncez, avec un réseau de chaleur 100% renouvelable, sans les inconvénients de l'installation décentralisée. Donc, entre initiés, on est tous d'accord. Aujourd'hui, la problématique, c'est l'acceptation au niveau de l'ensemble de la population de la nécessité et de l'urgence que vous avez rappelé tout à l'heure de la transition écologique et énergétique, tout en expliquant effectivement que... Alors, le vert n'est pas forcément plus cher. Hein, l'énergie verte, si elle est faite de manière centralisée, intelligente, distribué par des réseaux, on peut être compétitif aujourd'hui avec les fossiles, mais comme l'a dit justement M. Vuille, on a une incertitude sur l'évolution des prix des fossiles qui n'est pas la même pour les énergies renouvelables et locales, puisqu'a priori on va aller vers une meilleure autonomie énergétique avec un contrôle du prix qui sera finalement local et non plus dans des pays plus lointains.
Cadium, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la récupération de l'eau de refroidissement de l'usine des Chenevier qui nous a permis de faire un réseau qui alimente plusieurs dizaines de milliers de foyers dans la région de Nancy et d'Aunay. C'est en effet une des plus belles réussites que nous ayons pu faire. Et les consommateurs ont été bénéficiaires, comme vous l'avez dit, M. Andrès, pendant des années et maintenant trouvent encore le moyen de... Et à la limite, ce sont les mêmes qui diront qu'ils sont favorables à l'environnement. Oui, monsieur Vuille.
Juste là-dessus. Alors, entièrement d'accord, donc on va peut-être quand même pouvoir fusionner vos genèves. Mais donc, si d'un point de vue économique, on est tous d'accord que globalement, l'enveloppe est favorable aux renouvelables, mais que ça augmente le prix potentiellement pour un client final qui ne sera pas d'accord de payer 2 ou 3 centimes de plus, c'est qu'on a fait le calcul économique est juste, mais la façon dont on aura fait la répartition des coûts sur chacun des acteurs n'est pas correcte. Quelque part, les collectivités doivent être capables d'absorber cette différence de 3 centimes parce qu'elles les gagnent sur les jobs, parce qu'elles les gagnent sur les services forestiers qui sont faits, entre guillemets, gratuitement par la filière. Et donc, c'est simplement retrouver des mécanismes économiques et financiers qui permettent de valoriser ces filières.
Gardez votre micro, monsieur. Pardon, monsieur le directeur.
J'aimerais aussi ajouter quelque chose. Je suis d'accord que les experts, ils sont pour eux, c'est clair. Mais après, il faut peut-être se demander qui, à la fin, décide sur le système de chauffage que je prends. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la population elle-même. Il y a eu un sondage à Zurich. Je ne sais pas si vous avez aussi fait des sondages comme ça sur si c'est un remplacement de la chaleur, comment les gens décident. Et à la fin, ils disent « Ah, pour moi, c'est trop compliqué, je demande mon installateur ». Et c'est normalement celui-là qui a déjà fait l'ancienne installation et qui dit, qui augmente pas avec le prix, avec rien, il dit « Ah, c'est plus facile si vous restez là où vous êtes ». Et je pense là, il faut informer les gens, il faut aussi informer les installateurs, et ce sont aussi les associations fêtières, professionnelles, qui doivent aller là-dedans. Et je pense aussi, vous, comme service cantonal, vous avez là une grande influence sur ces milieux, que eux, ils font des meilleurs conseils. Parce que moi, je suis persuadé que ce que a vu ce sondage à Zurich, qu'il est comme ça aussi dans tous les autres cantons.
C'est un peu mieux.
Bien. Monsieur Vuille, vous nous dites quelle est l'importance du... Dans le canton de Vaud, il est clair qu'on est sur un autre territoire que celui de Genève. À Genève, il y a d'autres qualités, un territoire plus vaste, des opportunités notamment pour le chauffage bois qui sont plus grandes. Vous nous dites deux mots de la situation du chauffage bois dans votre canton. Et puis ensuite, on a le temps de prendre quelques questions de la salle.
Je dégage celle-là encore d'air, parce que pour l'instant, je suis avec une casquette EPFL pendant encore deux jours.
Donc. Oui, mais comme vous vous êtes préparé, si vous avez été nommé au poste que vous allez occuper dans deux jours, c'est parce que vous connaissez bien la situation.
Effectivement, on a un potentiel bois à valoriser encore très important sur le canton de Vaud, donc, et on s'y attarde. On s'attache surtout à comprendre quelle est la meilleure valorisation du bois. Aujourd'hui, c'est une aberration, ça je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde dans la salle, mais d'un point de vue purement ingénieur, les ingénieurs comprendront, faire de la combustion pour le bois, pour produire de la chaleur, pour chauffer les bâtiments, c'est une aberration énergétique, absolue. On n'utilise que 15% du potentiel exergétique, c'est-à-dire le potentiel à rendre des services énergétiques. Si vous faites la même chose avec une cogénération, vous arrivez à faire 3 fois plus de services énergétiques avec la même quantité de bois. Donc la combustion pure pour produire de la chaleur basse température, c'est une aberration, d'autant qu'il y a des tas d'autres moyens de produire de la chaleur basse température, avec les pompes à chaleur notamment, qui ne savent pas faire autre chose que ça. Donc valorisons déjà, faisons la chaleur basse température avec les pompes à chaleur, avec les rejets de chaleur, avec tout ce qui existe déjà, et valorisons la filière bois, la biomasse, de manière générale, a un attribut extraordinaire, c'est qu'elle est versatile. Elle peut donner n'importe quel service énergétique. Une éolienne, un panneau solaire ne fait que de l'électricité, une pompe à chaleur ne fait que de la chaleur. Le bois fait tout ce qu'on veut. Donc faisons déjà tout le reste et ensuite on se pose la question, qu'est-ce qui nous reste à combler ? Donc le bois, il doit venir dans la logique, même si c'est une ressource qui est en volume très importante, aujourd'hui la première, on doit se poser la question, faisons déjà ce qu'on peut faire avec les autres ressources, et ensuite le bois, il vient complémenter de manière intelligente, et ne pas être en concurrence avec les pompes à chaleur, parce qu'une fois qu'on a mis une chaudière à bois dans une école, on ne va pas mettre de pompe à chaleur, et ce bois ne sera plus disponible pour d'autres utilisations. Donc c'est ça, et une des réflexions sur lesquelles se penche le canton de Vaud aujourd'hui, c'est quelle est la meilleure filière de valorisation du bois ou des différents types de bois et de biomasse.
Merci. Réaction. Question de la salle. Vous êtes en pleine réflexion. Vous nous dites encore deux mots sur le potentiel le canton de Vaud a un très gros potentiel. Genève, c'est plus exigu, mais on fait le maximum avec ce qu'on a. Vous pouvez dire encore deux mots du potentiel que vous avez pour l'énergie bois? Alors,
sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une... Je retrouve la même ambition que celle que vous avez illustrée dans les propos précédents. La région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de la politique de l'État français, ambitionne d'augmenter sa production énergétique sur la base de la biomasse de manière exponentielle d'ici 2035, en mobilisant de l'ordre de 2 millions de mètres cubes supplémentaires sur la partie strictement énergétique. Et étant consciente là aussi du différentiel de prix par rapport aux énergies fossiles et à l'image de ce qui est fait sur la communauté de communes de Chamonix, il va y avoir une politique d'aide financière incitative très forte pour combler ce déficit concurrentiel, peut-être momentané, en tout cas on espère qu'il est momentané, et pour quand même engager une politique vers ces énergies renouvelables beaucoup plus ambitieuse qu'aujourd'hui. Donc il y a ce mouvement qui est engagé, et parallèlement un mouvement complémentaire. Pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une juste rémunération de toute la filière, c'est-à-dire de toutes les personnes, enfin de toutes les entreprises et de tous les secteurs qui interviennent dans cette filière bois-énergie. Donc parallèlement, il y a aussi une réflexion sur la manière de contractualiser les choses sur le moyen et le long terme avec tous les acteurs de la filière pour éviter l'écueil d'aujourd'hui où concrètement nous avons un certain nombre d'entreprises productrices de bois-énergie en France qui sont en très très grande difficulté, voire proches du dépôt de bilan. Parce que globalement, les énergéticiens demandent au bois énergie de réduire fortement son prix d'achat pour être compétitif par rapport aux énergies fossiles. Et ce qui fait que les opérateurs de producteurs de plaquettes ou autres sont en très grande difficulté. Donc il faut absolument aussi, pour sécuriser et dynamiser cette filière, arriver à une rémunération équitable de toute la filière. Et donc les autorités publiques en France essayent d'organiser tout cela.
Est-ce exagéré de dire qu'on ne paye pas le bois à son juste prix ?
Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Parce que
à un moment donné, il faut un langage de vérité. On ne paye pas le bois pour ce qu'il apporte. J'ai fait allusion ce matin, on le regarde en forêt, c'est bucolique, c'est tout ce que vous voulez. On en fait un usage après, mais on ne le paye pas. Monsieur Évrard, et puis ensuite Monsieur Andrés. Si vous voulez prendre la parole.
Oui, effectivement, du point de vue des collectivités, les communes forestières pourront que confirmer ce qu'on entend. Et l'exemple vaudois, autant que je ne vois, est évidemment intéressant. On a, nous, sur notre territoire, quelque chose qui bloque très concrètement tout cela et qui est l'explication pourquoi il n'y a que Valorcine qui, aujourd'hui, sur une démarche très volontaire, a fait une chaufferie bois collective. C'est tout simplement la capacité de stockage et de séchage. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi ces 10 dernières années à trouver un emplacement dans la vallée de Chamonix, qui est à l'échelon du pays du Mont-Blanc, donc les 14 communes de Sallanches à Valorcine, justement, où on puisse poser tout ça simplement avec un lieu d'approvisionnement relativement accessible. Donc vous voyez, effectivement, le prix du foncier, la question de l'aménagement du territoire de façon générale, n'a pas tellement intégré ces éléments-là. Et c'est effectivement un travail qu'il va falloir mener. Je ne sais pas comment ça se passe du côté suisse, mais du côté français, il est certain que le potentiel est là. Il est peut-être plus compliqué dans les territoires très montagneux parce que l'accessibilité à la forêt n'est pas facile, on le sait. Donc, surcoût, vous avez dû en parler aussi ce matin, la question du débardage par cap, du manque de connaissances, de compétences. Voilà, bon, très bien. Mais déjà, essayons de résoudre ce problème, effectivement, du stockage et du séchage. Dans le fonds Herbois, on essaye d'accompagner sur ça aussi, y compris pour le bois bûche, parce qu'on sait qu'on a un bois bûche plutôt de mauvaise qualité et trop jeune, mais sur de la chaufferie collective, c'est un élément déterminant que d'avoir ces points de stockage et de séchage.
Monsieur Andrés.
Alors, c'était pas sur ce sujet-là, c'était par rapport au potentiel bois genevois. Alors c'est vrai que le potentiel local est déjà fortement valorisé, mais pour vous rassurer sur la collaboration transfrontalière, on en a aussi à Genève, et il y a un rapport qui a été publié il y a une dizaine d'années qui montrait un potentiel de bois dans la région de l'Ain qui pouvait être extrait en collaboration entre la Suisse et la France pour être valorisé sur Genève. Et on a cette volonté aujourd'hui de favoriser les circuits courts, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Royer, Et dans cette optique-là, on souhaiterait relancer l'étude de cette valorisation locale, ce qui permettra un débouché à un juste prix pour les forestiers de la région et pour Genève de renforcer finalement son approvisionnement local, puisqu'on ne va pas aller chercher du bois au fin fond de l'Italie ou de l'Allemagne pour le valoriser en Suisse.
Alors, on peut toujours améliorer la communication, M. Andrès, parce qu'il se trouve qu'il y a environ deux... M. Baird, ce matin, a présenté cette initiative. Il y a environ 2 ans et demi, sur le pôle d'excellence de Rumilly, nous avons réuni des Français et des Suisses pour aller dans ce sens. C'est vrai, donc ça va très lentement. Et je le disais de manière très claire, ça va trop lentement. À part l'exprimer avec un certain enthousiasme dans un discours, c'est une chose, mais après, pour la concrétisation, on a beaucoup de difficultés. Mais c'est vrai aussi que le département, on a des liens avec les pays de Savoie qui sont un peu différents qu'avec le département de l'Ain. Mais Roger Baird a bien entendu ce que vous venez de dire, de manière précisément à ne pas faire des doublons. On a déjà relativement peu de temps et il ne faut pas qu'on se disperse sur un sujet comme celui-ci, mais vous avez parfaitement raison.
Je voulais quand même rappeler une chose, hein, c'est que le bois est vertueux, que si la gestion de la forêt est vertueuse. Parce que toute la vertuosité du bois, elle repose sur le fait que le carbone, enfin les gaz à effet de serre équivalent CO2 qui sont rejetés sont recyclés dans un cycle relativement court, hein, puisque de toute façon, les énergies hydrocarbures, elles ont été stockées. Le problème, c'est qu'en dizaines ou centaines de millions d'années, qu'on va les rejeter en 300 ans. Il est là le problème. Et même un peu en jetant un pavé dans la mare, malheureusement, le bois, il rejette beaucoup plus de CO2 que les hydrocarbures, intrinsèquement, puisque vous avez une densité énergétique beaucoup plus importante, ce qui a fait d'ailleurs l'avènement des hydrocarbures. Donc si vous n'avez pas une gestion, une bonne gestion et une gestion dynamique, parce que quand on ne fait rien dans la forêt, obligatoirement, le carbone, elle va se décomposer et donc on va commencer à rejeter du carbone et pas en absorber. Donc la gestion dynamique de la forêt, la bonne gestion éco-certifiée, elle est indispensable. Et si on n'a pas le prix réel juste du bois qui permet de faire ça, on va aller vers des dérives qui feront que justement on n'aura pas cette gestion et que le bois ne sera pas une énergie renouvelable. Donc c'est extrêmement important que le prix du bois monte.
Monsieur Jean Laville. Oui, vous pouvez y aller.
Voilà. Je voulais revenir quand même sur quelque chose. Quand on parle de loi du marché, les marchés s'adaptent très bien à une chose qui s'appelle la taxe. Alors, je ne sais pas si c'est tabou de parler de taxe écologique maintenant avec la situation chez nos voisins, mais quand même en Suisse, on a quand même cette expérience de la taxe sur les combustibles qui est justement là pour compenser les problèmes de compétition entre deux filières dont une aurait des désavantages écologiques. J'aimerais avoir de l'Office de l'environnement ou de l'énergie s'ils ont un feedback sur l'effet de cette taxe sur les combustibles qui a été augmentée, si je me souviens bien, d'au moins 2 ou 3 fois. Est-ce qu'on observe véritablement un effet de cette taxe et est-ce qu'elle, selon votre avis, est encore nécessaire ou est-ce que c'est encore un outil dont on ose citer le nom comme étant un moyen finalement de promouvoir aussi la filière bois?
C'est pour vous. Oui, c'est vraiment pour vous.
Merci beaucoup. Oui, non, je pense que cette taxe, elle a un effet. Elle a, on a commencé avec 30 francs et maintenant elle est sur 96. Et dans la nouvelle loi sur le CO2, qui politiquement n'est pas encore, bien au but, mais c'est prévu par le Conseil fédéral propose 240 francs. Et moi, je pense, si on a un maximum de 240 francs, il faut dire, mais on voit déjà des effets, et je pense si on continue comme ça, ça va encore avoir des effets plus grands. C'est clair, on pourrait dire les prix d'aujourd'hui, ils sont assez proches, je dis. Et ça pourrait encore être meilleur, mais il faut aussi dire politiquement, c'est pas facile de commencer avec une taxe très haut. Vous avez vu au commencement, c'était 36 francs, c'était le premier pas, mais maintenant la taxe elle est acceptée et maintenant on peut vraiment peu à peu, si on n'arrive pas au but de CO2, augmenter cette taxe, ce qui va donner une meilleure situation pour le bois. C'est comme M. Vuille a dit, il ne faut pas seulement calculer avec les prix d'aujourd'hui, mais aussi avec les prix du futur. Et on sait que cette taxe, elle va encore une fois augmenter. Ça veut dire que les prix vont encore, pour les combustibles, vont encore être plus hauts. Mais le problème, c'est que ce n'est pas encore calculé par les gens. Comme j'ai dit en avant, moi, je pense, peut-être en France, c'est autrement la situation comme en Suisse, mais les petites différences, ça ne concerne pas les gens. Eux, ils veulent avoir un système sûr qui fonctionne où on leur dit, voilà, fais comme ça et après, tu n'as pas de problème. Si à la fin, ça coûte 100 francs plus par année ou 200 francs, ça, ce n'est pas encore un problème. C'est clair, si c'est 2000 balles de plus, c'est autre chose. Mais disons, dans ces montants-là, les gens ne calculent pas au dernier franc. Et c'est plutôt ça le problème, je pense, qu'ils ne font pas ces calculs que la taxe qui est encore trop bas. Mais je ne sais pas comme les experts le voient.
Allez-y, nos amis français nous écoutent au sujet des taxes avec intérêt.
Oui, alors, intéressant de savoir que la taxe sur le CO2 suisse est la plus haute au monde, à 96 francs suisses, donc à peu près 80 euros la tonne de CO2, 5 fois plus grande que le marché européen, le marché EU ETS, qui a plafonné à 5 euros pendant 10 ans et qui maintenant est monté soudainement à 20 euros, mais semble se restabiliser à 20 euros. Donc on est, de ce point de vue-là, on a une longueur d'avance. Le problème qu'on a, c'est que cette taxe, comme vous le savez, ne s'applique que sur les combustibles fossiles. Donc, on n'a pas la même taxe sur l'électricité. Donc, si vous essayez de faire avec la biomasse de l'électricité, ben, on devrait la subsidier, que ce soit du biogaz ou du bois. Aujourd'hui, je pense que la chaleur, clairement, la chaleur bois est concurrentielle avec le gaz et le mazout. Il n'y a pas photo. Sur l'électricité, c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être malin. À ce moment-là, on va augmenter l'efficacité de la filière. Et typiquement, la cogénération, je vous donne un exemple. Vous produisez de la chaleur aujourd'hui bois, vous êtes à 14 centimes. Je vous la fais en centimes suisses. 14 centimes, vous êtes un tout petit peu plus haut que le mazout qui serait allé à 12, en caricature. Et puis, si vous voulez faire que de l'électricité, vous allez produire votre électricité à 30 centimes. Or, le marché, il est à 4. Ça va peiner. Et puis la parité réseau, si vous êtes un consommateur final, vous achetez votre électricité à 20. Donc à 30 ou 35 centimes, vous n'êtes pas dedans. Maintenant, si vous faites de la cogénération et que vous mutualisez les investissements sur votre appareil, eh ben, tout d'un coup, vous allez produire de la chaleur à 10 ou 11 centimes, parfaitement concurrentiel, et de l'électricité à 20 centimes, parfaitement concurrentiel pour un utilisateur final en autoconsommation. Et comme depuis l'année passée, on a le droit en Suisse d'autoconsommer son électricité, eh bien, il suffit, il n'y a qu'à construire des micro-réseaux, chaleur, électricité, de rendre indépendants des nouveaux quartiers ou des quartiers existants de manière parfaitement concurrentielle avec les prix d'aujourd'hui. Et ça peut caler en s'améliorant. Simple, hein?
Tout simple. Patrick Fouvy.
Une question à M. Buchel. Vous avez sauf erreur mentionné que pour le bois, il pouvait y avoir la RPC, reprise à prix coûtant. Comment est intégré le fait qu'aujourd'hui, le prix du bois n'est pas couvert, les frais d'exploitation? Est-ce que ça peut rendre en compte, couvrir une partie? Quelle est la stratégie?
L'idée, c'est vraiment que la RPC couvre tous les coûts que vous avez. Alors, comme ça, je dirais, ça fonctionnerait avec la RPC. Mais le problème, c'est que l'argent qui est à disposition pour la RPC et le temps qu'on a encore pour la RPC, ça veut dire le Parlement a mis fin 22, qu'il y a presque plus de projets qui peuvent encore rentrer dans la RPC. C'est ça le problème, pas la hauteur. Je pense que ceux qui profitent de la RPC, ils reçoivent assez et il n'y a pas un problème financier ou économique pour ceux qui reçoivent. Mais il ne va plus avoir beaucoup qui peuvent encore rentrer. Ce sont tous des projets qui sont déjà prêts à réaliser et je ne peux pas vous donner des bonnes nouvelles que le Parlement va encore réouvrir ce truc-là. C'est bien possible qu'avec le nouveau projet pour la révision de l'appel, que là, on cherche aussi quelque chose pour des soutiens pour les énergies renouvelables, mais ça, ce n'est pas encore décidé, pas encore discuté même.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? On a fait. Écoutez, ça a été un riche panel. Et vous avez dit, M. Andrés, que, en somme, les initiés comprenaient, parce qu'il y a un dénominateur commun, quand même, évident entre vous. Il y a des subtilités, quelques ajustements, quelques visions un peu différentes aussi d'un pays à l'autre, parce qu'on vit dans des cadres qui sont réglementaires, qui sont également différents. Et alors, entre initiés, on est convaincu, et on pense aussi que c'est aller dans la bonne direction d'agir de cette manière-là, mais ça veut dire que la mobilisation, et c'est pour ça qu'on a organisé ces rencontres. On a organisé, tout est enregistré, vous devrez assumer ce que vous avez dit, tout est enregistré et filmé, et le but, c'est d'utiliser tout ce qui a été dit pour travailler là-dessus au cours de ces prochains mois. C'est ça qui est évident. Mais il faut qu'on prenne conscience dans la population, précisément, que quand on parle, le mot taxe, vous ne l'aimez pas beaucoup, mais lorsqu'on parle d'une différence de 2 centimes, on ne peut pas se promener avec une pancarte en faveur du climat et de l'environnement, et d'autre part, être réticent là-dessus. Il y a véritablement, nous sommes à un virage de société. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle dépasse les partis. Ce n'est pas une notion de gauche ou de droite. C'est véritablement un problème de société. Alors, il nous appartient, moi, je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde, et croyez en tous les cas que nous ferons le meilleur usage de cela, mais attendez-vous à être encore sollicités. Et dans le cadre des lignums, puisque je vous l'ai dit, nous sommes mobilisés au plan romand et français entre le Jura et les Alpes. C'est donc dire qu'on a beaucoup de travail à faire. Puissiez-vous, les uns et les autres, être de bons ambassadeurs de cette démarche. Eh bien, à cette heure-là, maintenant, vous avez le droit à une petite pause. Merci.